Bien, eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition des tutos live Windows Azure. Donc on est assez nombreux pour la première parce qu'il faut à la fois qu'on comprenne comment ça marche, qu'on puisse prendre les questions, on avait un invité. Donc vous retrouvez Benjamin Guilbertière que vous
Bonjour.
pratiquez sur le bulletin Azure au quotidien depuis déjà un certain temps. Kevin, qui est
Oui.
avec nous sur les aspects techniques aujourd'hui, qui vous a poursuivi pour venir assister et qui prendra vos
Très peu.
questions à la fois sur la zone de live que vous avez sous les yeux et puis également sur le compte Facebook. Donc vous pouvez poser les questions par le bout qui vous plaît et on répondra à peu près en temps réel. Hein, on finira d'autres mots avant de répondre.
On peut préciser que s'il n'y a pas de questions, Kevin reviendra pour avoir des questions. Et s'il y a des questions, il sera remplacé par Nathalie à la prochaine fois.
Ce qui est plus intéressant quand même.
Voilà, et on a le plaisir d'avoir Michael avec nous,
Bonjour.
qui présentera tout à l'heure un peu plus en détail ce qu'il fait dans la vie et ce qui l'a amené à s'intéresser un petit peu à Azure, sachant que le sujet du jour, c'est, je crois qu'on l'a marqué, hein, donc c'est migrer vos sites vers Azure Websites. Alors pourquoi vers Azure Websites? Juste pour un petit rappel pour les gens qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé depuis début juin, on vient de voir apparaître dans Azure deux nouvelles offres. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec le découpage habituel où d'un côté on a tout l'hébergement classique avec toutes les couches qu'on doit prendre en main. On a introduit une notion de machine virtuelle qui en gros met à notre disposition et à notre charge tout le hardware, la connectivité, etc. et qui vous rend la main à partir du système d'exploitation. Avec du Linux, avec du Windows, et donc c'est pas mal de boulot, mais c'est énormément de flexibilité. On a notre offre classique qui a été renommée à l'occasion de la sortie des nouvelles fonctionnalités Cloud Services, dans laquelle on trouve tout ce que vous connaissez depuis fin 2008 en matière de déploiement cloud. Et enfin, on a la partie Azure Websites qui, elle, dit, eh ben, on va enlever tout ce qu'on peut. Donc chaque fois qu'on peut faire un choix à votre place, on va le faire et on va vous imposer de travailler avec simplement une techno qui pourra être ASP.NET, PHP ou Node.js. Si on a un petit peu de temps en fin de mission, on parlera des autres possibilités. Et du coup, nous, on s'est dit, ben, très bien. Est-ce que c'est utilisable ou pas? Et on a pris un scénario très concret. On a dit, si on prend des applications existantes et qu'on veut les migrer vers Azure Websites, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quelles sont les opérations qu'on devra faire? Et du coup, on a essayé de travailler sur deux grandes technos. On a principalement regardé ASP.NET et PHP qui représentent la majorité des applications existantes que vous avez. On aura un petit passage par Node.js quand même pour présenter les concepts qui sont derrière. Mais le plus clair de l'émission sera consacré à ces migrations ASP.NET et PHP.
Sachant qu'il y a aussi des applications qui sont déjà prêtes dans le portail et qu'on peut créer tout de suite aussi, mais là on s'est concentré surtout sur d'autres qu'on puisse migrer, quoi.
Voilà. Et on va commencer par ASP.NET. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver en ASP.NET? On a été chercher à droite à gauche des exemples. On s'est donné comme règle de ne pas prendre d'exemples disponibles directement sur le portail d'administration d'Azure. Et donc les deux exemples qu'on va vous montrer, le premier est un vieux sample.
Oui.
Tailspin Spyworks, Benjamin s'est entraîné une semaine à le prononcer, moi j'ai encore un peu de mal. Et on va tout de suite passer la main à Benjamin pour qu'il nous dise un peu ce que fait l'appli, comment on la migre, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas.
Très bien. Alors, je suis rentré un peu dans le détail dans un blog post. Hein. Là, l'idée, c'est de montrer les principales idées, de voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on a un site web en ASP.NET WebForms et on veut donc le migrer. Donc en fait, il est en SQL Server pour la base de données, en ASP.NET WebForms pour le frontal, et donc on va le migrer sur Websites pour la partie ASP.NET, puisqu'on les Websites, en fait, c'est une ferme IIS, hein, et sur la partie Azure SQL pour la partie base de données. Donc on va commencer par créer un conteneur qui est le website lui-même, en fait. Donc là, je crée un nouveau website avec sa base de données. Donc je vais l'appeler Tailspin Spyworks, on va voir si c'est disponible. C'est disponible. Je vais le mettre en Europe du Nord. Je vais créer une nouvelle base de données, Azure SQL. Je vais lui laisser son. Non, je vais changer le nom par défaut. Je choisis de la mettre sur un serveur qui est ici. Voilà, je rentre le mot de passe de la base de données dont je n'ai absolument aucune idée. Voilà. Tac. Et c'est bon. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est créer une ferme IIS, enfin un serveur IIS et d'aller héberger un site vide dessus, et également une base de données Azure SQL, et d'ailleurs c'est déjà fait. Donc si on va à cet endroit-là, en fait, on va voir un site web complètement vide. Et l'idée, c'est d'aller effectivement remplir ce site avec, avec la migration de notre site. Donc Tailspin Spyworks. Ici, ce que je vais faire, c'est que comme je vais devoir publier des choses, je vais télécharger un publish profile qui est un petit fichier qui donne toutes les instructions à Visual Studio, puisqu'on va travailler dans Visual Studio, pour pouvoir publier des données. Donc là, je le sauvegarde ici, dans ce répertoire-là. Et voilà, on va y revenir. Donc maintenant, on a par ailleurs notre site qui fonctionne en local. Donc ce site-là, eh ben, il ressemble à ça. En fait, c'est un site qui permet de d'acheter du matériel pour les espions. Donc par exemple, si on veut se protéger, on peut avoir un guard dog pacifier. C'est assez utile quand on vient de franchir une barrière. Ou un ultra violet attack defender. Je sais pas si t'en as déjà un chez toi, Pierre, mais bon, c'est assez pratique. Donc, une fois que j'ai pris ce truc-là qui est à 89,99, je l'ajoute au panier et j'ai ça en plus de ma fake moustache translator que j'avais pris par ailleurs. Voilà, je peux me connecter, j'ai une base de compte, là je vois que je suis sous mon nom Benjgin, etc.
Bon. Ça fait un peu site web de l'époque de la guerre froide, hein, quand même.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'esprit du site. Voilà, donc Tailspin Spyworks est ici, donc je l'arrête ici, donc il fonctionne. J'ai la base de données, en fait il s'appuie sur deux bases de données, qui sont la base ASP.NET DB qui contient les comptes avec membership, et puis la base commerce qui, elle, contient tout le reste, en fait. Donc à partir de là, l'idée, c'est de dire, on va très bien, ce Tailspin Spywork, je veux, donc là, juste pour montrer que c'est bien de l'ASP.NET WebForms, on a un addtocart.spx, par exemple, et il doit y avoir un default.spx qui traîne, tiens, il y en a un là, donc c'est bien cette technologie-là. Maintenant, je suis dans Visual Studio et je vais vouloir publier cette application, donc un peu de la même façon que je voudrais la publier sur un site IIS. Et pour faire ça, en fait, là, je vais dire j'importe un profil, et ce profil, en fait, eh bien, c'est tout bêtement le fichier que j'ai téléchargé du portail tout à l'heure. Donc il me donne tout un tas de paramètres dont je me fiche pour l'instant, je les valide, je dis à Visual Studio, t'as compris ce que lui il t'a dit, parce que moi rien. Donc normalement il devient vert et il dit oui. Tatadom.
J'aime bien le moment de suspense.
Oui, voilà, exactement. Donc voilà, il est vert, il dit oui. ensuite, il détecte que dans mon application, j'ai dans le web.config une base commerce et une base default en fait, qui sont les bases ASP.NET et la base commerce, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller les mettre sur la base que je viens de créer. Donc, en fait, les mettre sur cette base TSS WDB qui est ici. Donc, je choisis effectivement ça. Je prends la même chose pour la base Default Connection, puisque là, je mets dans la même base à la fois mes comptes ASP.NET et mes comptes et le reste de ma base, la partie commerce. Donc j'ai ces deux chaînes de connexion du fichier de web.config qui vont aller vers cette base que je viens de créer au niveau Azure SQL. Je ne demande pas à faire la mise à jour de la base de données par ces moyens-là, puisqu'en fait je vais le faire par d'autres moyens. Alors il y a une partie que j'ai déjà faite qui est le fait d'installer les Universal Connectors, puisqu'il avait détecté que comme c'était un ancien site, il fallait passer aux Universal Providers pour avoir la base membership. Et donc c'est lui qui va créer les tables dont il a besoin dans Azure,
d'accord,
au niveau de sa base Azure SQL. Et pour la base commerce, on va utiliser un autre wizard que je vais vous montrer. Donc voilà, je fais Next et Publish. Et donc là, du coup, ça va aller mettre sur le site tout le code source de mon webform, en fait.
Donc si je récapitule, tu as automatisé la publication de l'appli web.
Voilà.
Le système se gère comme un grand sur la base des comptes, voilà. Et tu risques des petits problèmes de format entre la vieille base SQL Server qui doit remonter à du SQL 2005 d'un côté, et ta base Azure SQL, et donc ça tu vas le traiter dans un deuxième temps.
Voilà, pour la base de commerce, exactement.
D'accord.
Donc ça, effectivement, l'application pour l'instant, il va lui manquer sa base en fait. Donc si on la charge, si on charge le site, enfin il va avoir la base mais pas les tables. Donc voilà, on le laisse faire. Pendant ce temps-là, on passe sur le SQL Azure Migration Wizard. Donc ça se télécharge à sqlazuremw.codeplex.com. Et quand on l'ouvre, en fait, on va dire, voilà, je veux migrer une base SQL Server vers une base Azure SQL. Donc je fais ça, je me connecte sur mon serveur local et je me connecte sur ma base master, c'est la base commerce que je veux migrer. Ensuite, je laisse les options par défaut qui sont le fait de migrer tous les objets. Et puis, ensuite, je vais pouvoir donner, alors au passage, dans les options, il y a le fait de migrer aussi les données, c'est-à-dire le schéma et les données. C'est ce qu'on voit ici. Très bien. Est-ce que je suis prêt à générer le script? Oui. Donc là, il analyse la base SQL Server et il va regarder si elle est compatible pour aller vers une base Azure SQL. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller ajouter, c'est une des différences qu'il y a parce que ce n'est pas exactement le même moteur entre SQL Server et Azure SQL. Donc la première chose qu'il va faire, c'est d'aller rajouter des index de type cluster. Donc là, il l'a fait par défaut. Il me dit si vous en voulez un autre, éventuellement, choisissez un autre, etc. Bon, là, ça me va. Donc je vais faire OK. Maintenant, je vais devoir donner le nom de la base de données sur laquelle je veux me connecter. Donc là, la base, je vais l'avoir ici. Donc c'est ma base.
D'accord, parce que tu as deux étapes ici. En fait. Le oui. Wizard de migration te crée le script oui. que tu vas réimporter ensuite. Et c'est après, ça se fait en local, tu n'as pas besoin d'être connecté. Et ensuite tu jettes le script résultant sur ta base de données.
Exactement. Donc là le serveur c'est celui-ci. Donc c'est un nom que je n'avais pas retenu par cœur qui est celui-ci. Donc ça va être aussi mon username. Donc l'administrateur de cette base-là. Le mot de passe. Que je connais toujours pas et qui est toujours là. Hop, password.
Tu utilises le password manager le plus laid que j'ai jamais vu.
Ouais, mais bon, il y a des mots de passe dedans, donc bon, il n'est pas fait pour être vu. Donc, donc ensuite, je me connecte sur la base master et là, je choisis ma TSS WDB, la base que je viens de créer, et je vais pouvoir faire yes. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute tous les scripts pour pouvoir créer la table au niveau de Azure SQL. Et puis également, il va faire les BCP pour pouvoir mettre aussi des données, de façon à ce que j'ai les mêmes données que ce que j'avais, c'est-à-dire que j'ai aussi tout mon catalogue avec tous les trucs que je peux acheter. Donc voilà. Une fois que c'est fait, normalement, donc là il me dit qu'effectivement il est en train de faire le BCP sur les différentes tables, donc on voit qu'il travaille. Voilà, les products, ah, ça c'est le plus important, les products.
Courage, plus de 10 secondes.
Voilà. et donc là, j'ai une violation de clé primaire, bon, je sais pas pourquoi. Enfin, normalement, ça marche.
Bon, raconte-nous la fin
disons,
de l'histoire.
Disons qu'on fait un skip, exit, et puis ensuite, je vais pouvoir aller donc sur mon site, et je vais pouvoir voir effectivement l'application migrer comme ça. Donc là, je vais rafraîchir pour voir si effectivement... Donc là, il avait pas ça à table, donc ça marchait pas. Et si je reviens ici, est-ce que ça lui convient? Voilà, donc là j'ai mon site. Alors j'ai peut-être pas, comme j'ai eu une violation de clé primaire, il va peut-être me manquer un ou deux éléments contre les chiens de garde, mais globalement j'ai mon application qui fonctionne effectivement dans Azure maintenant et qui est sur cette URL-là. D'ailleurs, si vous voulez essayer l'URL pour vous-même regarder le site, hein, c'est Tailspin Spyworks, enfin les initiales, .azurewebsites.net.
Il est tellement content d'avoir réussi à le prononcer qu'il le recase même quand c'est pas la peine.
Exactement.
Bien, donc ça c'était la partie migration d'une application un petit peu ancienne. Moi je vais vous donner un deuxième scénario sur lequel j'ai travaillé et qui est, je travaille en local sans m'occuper d'Azure pour l'instant et je trouve un framework qui m'intéresse. Donc j'ai pris WebMatrix pour choisir une application, mais bien évidemment ça marcherait avec toute autre nature de site. Et donc j'ai été chercher un petit peu dans e-commerce, je me suis dit c'est sûrement un truc intéressant. J'en ai pas mal. Et j'ai quelque part un OpCommerce qui est à ma disposition. Et OpCommerce, ça fait quoi? Et ben, comme son nom l'indique, c'est un petit forum e-commerce. Donc le voilà. Je peux éventuellement le déployer pour vous montrer, mais enfin, c'est pas passionnant. Il va, comme d'habitude, vous trouver la base de données. Donc vous pouvez choisir SQL Server CE, donc une base fichier, ou SQL Server classique. Moi, j'ai pris une base classique quand j'ai travaillé, de façon à avoir une vraie base de données à côté. Et puis, ici, je peux prendre du CE, c'est pas très important. Il me dit, ben voilà, il faut télécharger, etc., etc. Lorsque vous avez fini ça, vous allez tomber sur un OpCommerce qui doit être celui-là. Donc le voilà ici avec sa base de données ici, donc que j'ai appelé fort intelligemment boutique.
C'est pas mal.
Bah, j'ai fait des efforts. Hein. Et puis vous avez donc ce site qui a été conçu totalement indépendamment d'Azure. Donc en l'occurrence celui-là, j'aurais peut-être dû d'ailleurs le faire dans Visual Studio aussi, mais j'avais envie de montrer comment ça fonctionnait dans WebMetrics. Il est lui fait en MVC. Et ma question c'est comment est-ce que je vais le migrer ? Alors j'ai fait l'intégralité du développement en local. Lorsque je fais exécuter ici, je tombe sur la version locale de mon site. Et ensuite j'ai fait à peu près les mêmes étapes que Benjamin. Donc je vous montre sur. Attendez, j'ai déjà un navigateur ouvert avec tout ça. On va prendre celui-là ici. Et j'ai été créé de la même façon un nouveau site web. Et exactement les mêmes logiques, c'est toujours ce qu'on va retrouver. On va commencer par créer un squelette. Donc on prend un site web avec une base, les deux sont vides. Et on va se retrouver avec un site vide et une base vide. Ces deux informations, vous allez ensuite vous en servir pour pousser le site vers sa destination dans Azure. Donc si je prends ici ma démo NobCommerce, c'est le site vide que j'avais créé tout à l'heure. Et j'ai été chercher exactement la même chose ici. Vous voyez le Publish Profile qui va me permettre de récupérer les informations. Ça marche dans Visual Studio, ça marche aussi dans WebMetrics. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans WebMetrics. Et ici, vous intéressez à la partie distante. Et dans les paramètres de téléchargement distant, vous avez la possibilité d'importer un profil. Et donc, vous reprenez le fichier XML qu'on a déjà vu une fois. Ce fichier contient les différentes informations. Alors, la technique est un petit peu différente parce que WebMetrics va vous dire, il faut que je vérifie qu'en face, ça va marcher. Et donc, il prend plein de précautions initiales. Il vérifie qu'il a les droits d'écriture, qu'il peut jouer sur les permissions, qu'ASP.NET est installé, que HTML est installé. Il vérifie également ce qui est disponible en base de données. Et donc, une fois qu'il a fait tout ça, vous retournez simplement ici sur le bouton « Publier » et on va automatiquement déclencher la publication coordonnée du site avec toutes ses modifications. Donc, au départ, il n'y a rien. Il va pousser l'intégralité du site et de la base de données. La première fois, il pousse l'intégralité de la base. Une chose intéressante, c'est qu'il va rechercher exactement comme tout à l'heure les informations de chaîne de connexion et il va les remplacer lui-même. Dans Visual Studio, on a choisi la base de données cible de paramétrage et là, il se dit, bon, ben, je soupçonne qu'il faut changer la base. Voilà. Donc si vous créez sans base, hein, ça peut se passer un peu différemment. Donc voilà cette première partie. Après, vous faites publish et puis vous allez vous retrouver directement sur quelque chose qui fonctionne. J'ai eu du bol. En fait, j'espérais que ça ne marcherait pas. Lorsque je l'ai fait ici, donc vous voyez des monopcommerce pour Azure Website, j'espérais avoir un pépin sur la base et pouvoir rediscuter avec le Migration Wizard pour la base donnée. Bon, en fait non, pour NobCommerce, la base est directement compatible, donc j'en ai pas eu besoin. Donc voilà un petit peu la deuxième approche avec pour le coup WebMetrics sur un site existant. Et donc quelles que soient les technos, hein, vous choisissez de la ASP.NET 2 ou 4, donc 2, 3, 3.5, 3.5 SP1. Tout ça c'est 2, et puis 4, et ça tombe en marche sans grande difficulté. Donc voilà pour mon petit univers du monde ASP.NET, donc plutôt que des bonnes nouvelles, simplement vérifier la compatibilité de la base et éventuellement toucher aux paramètres. L'autre univers qui va nous intéresser, on va commencer par le monde PHP. Donc pareil, on va commencer par travailler sur une application qui n'a rien à voir avec le monde Microsoft, qui n'est pas dans la galerie, qui est absolument nulle part. Et donc c'est MediaWiki. Et MediaWiki, c'est Benjamin qui s'y est collé. Donc c'est le moteur de Wikipédia. Et voyons un petit peu ce que ça donne.
Voilà, donc quand on va sur MediaWiki, on peut déjà on retrouve un peu le look and feel, hein, on voit à peu près à quoi ça ressemble et on va pouvoir télécharger cette version là par exemple. Donc une fois qu'on a téléchargé cette version, on obtient un fichier qui est celui-ci, le MediaWiki version targz. Donc sur Windows je l'ouvre avec 7-zip par exemple, et là je peux voir, j'ai tout un package qui est ici, et là j'ai les sources en fait PHP de ce moteur de wiki. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les sources, je les ai envoyées vers Azure Websites. Donc évidemment, avant j'ai créé un website exactement comme tout à l'heure. La seule différence, et je peux le montrer sur le portail, la seule différence c'est quand on est en train de le créer, je fais Create with Database, et au lieu de faire Create a new SQL Database, je fais Create a new MySQL Database, parce qu'elle va être à moi celle-là. Donc c'est la grosse différence. Non mais c'est tout bêtement parce qu'effectivement le moteur MediaWiki fonctionne avec MySQL. Donc voilà. Donc j'ai créé ça et à partir de là j'ai obtenu donc ce site MyWiki. Et dans MyWiki, après, j'obtiens effectivement un FTP hostname. Donc celui-ci-là, si je zoome, voilà, le Wahoo Sprout 2B3, c'est moins facile à prononcer que Telsium Spyware. Et donc à partir de là, je vais pouvoir le mettre ça dans un client FTP comme FileZilla par exemple. Je mets aussi mon deployment user ici. Si je ne me souviens plus du mot de passe, je peux faire un reset deployment credentials. Et voilà. Donc j'ai fait ça. Mon FileZilla est ici. Donc si je me connecte là-bas, voilà. Donc je me connecte sur ce site FTP. Hop, et donc j'ai les fichiers de log et le wroot où là j'ai tout. Donc là j'ai pris tout le contenu des sources PHP, je l'ai glissé ici et je l'ai publié. Donc comme c'est un peu long, je l'ai déjà fait. Voilà, donc là on en est à ce stade-là. À partir de là, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer d'aller plus loin, donc configurer le site. Donc pour faire ça, je vais sur le site lui-même. Voilà, open in new window. Et donc quand je vais sur le site, le moteur tourne déjà, mais comme il n'a pas de base, etc., il ne sait pas à quoi se raccrocher, il me dit, bah voilà, il faut faire le setup. Donc on va faire le setup. Doudoudou. On va se mettre en French, hein, de France. Alors, où est-ce qu'il est ? Français. Il y a aussi français ici. Hop. Et continue. Donc là, il me dit blablabla. Bla bla. Bon, là, voilà. Grosso modo, je retiens que l'environnement a été vérifié et que je peux l'installer.
Oui, ce que j'allais dire, on est à peu près arrivé au bout, là, non ?
Non, il y a plein d'étapes, mais c'est juste pour dire ça se passe bien, continuez, etc. Bon, il y a une partie, effectivement, qui est MySQL, là. Donc là, il me demande quelle est la base MySQL sur laquelle je vais me connecter.
D'accord.
Donc ça, c'est juste le point important dans cette configuration. Et là, pour avoir ça, ce que je fais, c'est que dans MyWiki, ici, sur le portail, je vais aller voir les chaînes de connexion. Et donc, dans les chaînes de connexion, je vais... il y a les connection strings qui sont là. Donc, show connections, je copie cette partie-là. Je la mets dans un notepad, par exemple. Voilà, donc là, et là j'ai les différentes parties que je vais pouvoir recopier. Donc par exemple, ça c'est le serveur, hop là, le serveur MySQL, il est là. Hop. Donc ici, au lieu de localhost, je le mets ici. Ensuite, le nom de la base de données, c'est cette partie-là, MyWiki DB.
Très bien.
Hop. Nom de la base de données. Là, je mets, un préfixe, par exemple. Un nom d'utilisateur. Donc ça, c'est les deux informations les plus passionnantes de cette partie-là, c'est-à-dire celui-ci. Hop. Et le mot de passe, qui est plus petit que le compte utilisateur, en l'occurrence. Continuer. Oui. Donc ça, c'est la partie importante de la chose. Après, le reste, il dit ouais, est-ce que... Donc je lui dis oui, ok. Nom du wiki, mon wiki tuto.
Oui, ça là, c'est plus de la migration, on a fini. Hein.
Voilà, donc c'est ça. Non, mais exactement. Donc après, effectivement... Si, il y a juste un point quand même, c'est qu'à la fin, en fait... alors, zut. Rapidement...
Il sent que je le pousse un petit peu.
Donc je fais plus vite.
Il me reste 2-3 minutes. Quoi, tu
voilà, donc c'est pas comme si j'avais encore une demi-heure. Donc voilà, continuer. Wiki traditionnel, ça te va, Wiki traditionnel
ou tu veux qu'on aille dans d'autres.
C'est oui, très beau.
C'est un traditionnel que tu voulais. Voilà, continue. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un fichier de settings qui contient en fait les différents éléments pour se connecter à la base de données. Oui. Je vais les télécharger et je vais les réuploader via FTP dans le site web, et à partir de là, je vais pouvoir avoir...
D'accord, Joomla a exactement ce type de fonctionnement voilà. Aussi, c'est assez classique. À la fin du setup, il donne les paramètres, parce qu'il ne veut pas écrire lui-même sur le disque, il dit que ça serait une faille de sécurité si c'était ouvert en écriture.
Oui, exactement.
Mais non, mais je comprends très bien.
Tout à fait. Et donc voilà, donc là, il est en train de le générer, il y réfléchit, et il va me le redonner.
Donc on va te couper l'écran et on reverra ça par la suite. Je vais terminer sur pour la partie techno non MS sur un autre scénario qui était assez rigolo que j'ai eu ce week-end. Donc ce week-end, j'étais sur un startup week-end avec un gars qui développait en Node.js sur son Mac et qui n'avait jamais vu Android de sa vie et qui s'en foutait un peu. Donc à la fin, il était un peu embêté en disant comment je publie. Et je lui dis, on peut tester. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement été créé ici un nouveau site web. Donc je lui ai dit, qu'est-ce que tu utilises comme base de données? Il me dit, rien. C'est souvent comme ça en Node.js. Hein. Donc on a fait un truc absolument vide. Test 333 par exemple. Ah bon, c'est déjà pris. Oui, c'est Alphéville. Donc test 3333. Et donc sur la base du site qui est créé ici, je me suis tourné vers lui en disant comment est-ce que tu publies d'habitude, et il m'a dit moi j'ai tout dans GitHub. Donc je ne me suis pas dégonflé, j'ai dit allons-y. Et en fait, ce que vous avez comme possibilité ici, c'est d'activer la publication Git. Donc il va vous créer un repository Git, et une fois que ce repository est créé, vous allez avoir la possibilité de le raccorder à GitHub. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Ici, deploy from my GitHub project. Et là, on vous dit très bien, vous allez devoir autoriser Azure à se connecter en votre nom à GitHub. Donc moi, j'ai déjà logué, et ensuite je choisis un de mes nombreux projets GitHub. Donc je prends Jukebox et je valide. Et la chose amusante, c'est que c'est terminé. Parce que à partir de ce moment-là, on va avoir une publication automatique de GitHub jusqu'à Azure. Et Website, c'est assez intelligent pour reconnaître que c'est du Node.js. Donc, chaque fois que vous ferez une mise à jour vers le projet GitHub, le truc tombera en marche au fur et à mesure, ou sera en tout cas testable. Et donc, on a découvert plein de petites différences entre les projets Git et les projets Git pour Azure. Ça a pris sur Node.js... deux lignes à modifier, c'est le port par défaut qu'il faut modifier et puis une extension statique qui est servie par défaut. Voilà, donc c'est une autre migration complètement réaliste pour le coup puisque son application était complète, complètement custom et écrite en Node.js. Donc voilà pour le petit monde du Node.js, on va terminer.
J'ai uploadé entre temps mon fichier, donc si tu vas sur mywiki.azurewebsites.net ça fonctionne.
mywiki.azurewebsites.net. Voilà, ne trichons pas, ce n'est pas sur sa machine, c'est sur la mienne. Et effectivement, ça fonctionne, bravo. Alors maintenant, on va terminer avec Michael qui va nous parler un petit peu du site qu'il a migré. C'est un peu particulier puisque c'est le sien.
Oui, c'est ça.
Parce que nous, c'est pas les
nôtres. Nous, c'est pas les nôtres, à chaque fois.
C'est la différence.
Voilà, c'est ça. Donc, on va poursuivre dans le monde autre que celui de Microsoft, avec toujours cette fois-ci un CMS bien connu, celui de WordPress, basé sur du PHP. Et c'est vrai que notre site actuel, celui d'Adenova, est basé sur ce CMS-là. Alors, on n'est pas évidemment les seuls à utiliser ce CMS-là. Il est très couramment utilisé. Et c'est vrai que nous, même dans les activités qu'on a à accomplir, ça fait partie de notre métier aujourd'hui de proposer des migrations pour des sites qui ont une influence assez forte de ce genre de CMS sur Azure. Et donc, je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qui a déjà été dit jusque-là, mais rapidement, pour faire une migration d'un site WordPress, le principe de base, c'est de récupérer via un client FTP vos sources en local. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, par exemple, dans ce répertoire-là. On voit l'ensemble des fichiers distants qui ont été récupérés ici. Via PHP MyAdmin, on fait la même chose, on génère un fichier SQL qui est ici. Et ensuite, on va pouvoir envoyer tout ça via un IDE qui est assez sympa de Microsoft, WebMatrix, qu'on commence à connaître maintenant. Donc l'idée, c'est de le monter en local dans WebMatrix pour ensuite le publier en distance sur Azure. Alors, avant de l'envoyer sur Azure, bien sûr, il faut créer via le portail d'Azure la coquille qui va contenir ce site WordPress. Or, il y a deux solutions. On peut, c'est vrai, partir de la galerie. On n'en a pas parlé, donc je me permets de le souligner. Il y a la possibilité dans Azure de récupérer un ensemble d'applications toutes faites. Donc, si on va dans CMS ici, on a la possibilité, ici, plus bas, d'aller chercher un site WordPress tout fait. Mais il sera pas à votre image, bien sûr. Ou alors, on peut créer une coquille vide. Un site vide avec une base de données simplement, et on va envoyer l'ensemble de nos sources locales en distance sur Azure. Donc comment, là j'en ai fait un, il est déjà prêt, mais je vous montre rapidement le principe. Donc simplement, ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser le web deploy. Et donc, ça va nous générer automatiquement ce fameux fichier XML dont on a déjà parlé. Je ne reviens pas dessus, je l'enregistre simplement. Mais c'est la solution la plus simple pour déployer. à partir de WebMatrix en tout cas, parce que ça va nous envoyer à la fois les fichiers sources et les données. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Tout ce qui nous reste à faire ici dans WebMatrix, c'est d'aller dans les settings de les paramètres de publication. Là, on voit, je l'ai déjà fait, mais ce qui se passe simplement, c'est qu'on arrive la première fois sur cette interface-là, qui nous permet d'importer notre fichier de déploiement, qui est ici. Voilà. Et récupère automatiquement l'ensemble des paramètres. Alors c'est bien un peu comme dans Visual Studio tout à l'heure de tester la connexion avant d'envoyer, c'est rassurant.
Il devient vert plus vite.
Voilà. Ça, ouais ouais. Ah, mais c'est WebMatrix.
Ouais, c'est mieux. Non, ça, je crois que c'est la chance. Hein,
Exactement. Voilà. Et ensuite pour terminer, il nous suffit de cliquer sur ce bouton de publication qui va envoyer l'ensemble des sources locales directement sur Azure.
Alors, est-ce que tu as des modifications ou adaptations spécifiques à faire ?
Exactement. Alors, avant d'envoyer, il y a quelque chose qui est classique lorsqu'on fait une migration d'un serveur à l'autre, en particulier quand le domaine change. WordPress a la fâcheuse tendance à stocker les URL en dur, que ce soit dans la base de données et même parfois dans certains fichiers. Donc, du coup, ce qu'il faut faire avant de publier sur Azure, c'est récupérer le domaine de notre site sur Azure. Alors là, comme je suis sur une version gratuite, je ne peux pas donner mon domaine. Donc là, j'ai du coup été obligé de modifier le domaine dans l'ensemble de mes fichiers sources. Là, si on regarde notre URL, elle est ici. Donc c'est monwordpress.azurewebsite.net. Donc ce qu'il a fallu faire avant d'envoyer tout ça, c'est simplement dans WebMatrix ici, aller faire un rechercher remplacer dans l'ensemble des fichiers sources de l'ancien domaine par le domaine d'Azure.
Alors une remarque là-dessus. Avoir son domaine personnalisé jusqu'à il y a une semaine, il fallait avoir au moins une instance pleine destinée à ça. Donc c'était assez cher parce que c'était dans les 60 euros par mois. Mm. Depuis quelques jours, on a accès au mode partagé pour la même chose.
Exactement.
Ce qui amène le coût mensuel d'hébergement à quelques euros, d'un peu moins d'une dizaine. Donc du coup, ça devient une alternative tout à fait intéressante.
Ça devient voilà, tout à fait simple parce qu'on n'a plus à faire cette opération-là de remplacement. Mm. Donc ça, c'est vrai que c'est appréciable. Et puis le dernier point qui peut être un peu touchy, j'ai envie de dire, c'est la notion de réécriture d'URL. Par défaut, quand on installe un WordPress, on n'en a pas. Mais si on veut des URL un peu plus sympas, on va faire un petit fichier htaccess quand on est sur une base d'Apache, ce qui est fréquemment le cas encore aujourd'hui pour du WordPress. Et là, on est sur une plateforme qui est basée sur du 2IS. Donc on va être obligé de convertir les règles de réécriture stockées dans l'htaccess en webconfig. Le plus simple, c'est soit d'en récupérer un quelque part, ou sinon, le plus simple, c'est orienté copier-coller, exactement. L'autre solution, c'est de se monter un petit site WordPress via 2IS Manager et d'avoir dedans l'htaccess qui provient de notre ancien hébergement. Et ensuite, on va, après avoir installé le module d'URL Rewrite, bien sûr, double-cliquer dessus et puis aller sélectionner la commande d'importation des règles de réécriture. Là, c'est extrêmement simple. On va parcourir nos sources, on récupère notre fichier htaccess, on fait un port. Et là, si on agrandit un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une petite erreur parce qu'il y a une règle qui n'est pas supportée par WebConfig. C'est celle-ci, qu'il faut simplement supprimer. Ça n'empêche pas que ça fonctionne très bien. On enregistre. Et voilà, notre WebConfig est généré. Il n'y a plus qu'à le prendre, à le mettre dans nos sources locales et à republier sur Azure. Et du coup, ça fonctionne très très bien. Il ne reste plus qu'à tester. Et là, je n'ai pas cliqué sur le bon endroit. C'est là. Et là non plus, ce n'est pas de la triche. C'est un vrai site WordPress hébergé sur Azure.
Très bien, bravo.
Alors, juste un truc là-dessus, tant qu'on en parle. Sur la partie base de données, tu as dit un truc très vite, mais très intéressant pour les gens qui font du PHP. C'est l'utilisation de PHP MyAdmin pour aller jouer avec la base qui est derrière. Oui. Et donc, ça marche tout à fait sur votre site initial. Enfin, du moins, je soupçonne, ça marche aussi sur le site d'arrivée, ce qui peut rendre quelques services. Donc, si vous voulez faire de la migration, de la reprise, trimballer les données d'un environnement à l'autre, etc., on me pose toujours la question comment je fais avec MySQL. Mm-hmm. Et la réponse, c'est faites comme d'habitude, on n'a pas de réponse spécifique.
Exactement.
Ça marche exactement à l'identique. Ouais.
Mais c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait la migration d'un site WordPress d'un serveur vers un autre, eh ben, on a le même processus pour aller sur Azure, quasiment le même. Et on est même pas mal assisté via le portail.
Donc, c'est vraiment simple. On va créer un WordPress back-office comme .azurewebsites dans lequel on mettrait le PHP MyAdmin par exemple.
Alors évidemment, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais que je veux rappeler quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier de modifier le fichier de configuration wp-config.php qui contient les accès à la base de données, qui sont évidemment plus les mêmes que sur l'ancien serveur. Donc ça, c'est une précision aussi.
Ou alors, on se connecte toujours sur l'ancien serveur.
Voilà, alors, il ne pourrait pas sortir, je pense.
Alors, pour info, si jamais vous prenez votre application PHP depuis la galerie, dans ce cas-là, il s'est automatiquement repéré toutes ces informations et il les maintient, y compris en base de données. Mmh. C'est-à-dire qu'il fait lui-même la modification en base de données avec le bon yesterday. Mmh.
Ce qui n'est pas le cas quand on part d'une coquille vide, juste avec la base de données, simplement.
Donc, eh ben, voilà pour cette petite tour. Donc, mine de rien, on a quand même balancé pas mal de techno là, en une petite demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions particulières autour de tout ça, sachant qu'on a explosé les temps?
Non, apparemment, c'était très clair parce qu'il n'y avait aucune question. Toujours est-il, s'il y a des questions à l'avenir, il y a le mail azureqr@microsoft.com donc où nos experts Microsoft, donc en l'occurrence vous et quelques autres, vont pouvoir répondre en cas de problème technique ou de, juste de questions sur Azure.
D'accord. Quand est-ce qu'on se revoit?
Alors, on se revoit tous les derniers mercredis du mois. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on instaure maintenant. La prochaine date, c'est le mercredi 24 octobre.
D'accord.
Voilà, donc sur cette même page, de la même façon en live, puis ensuite sur Channel 9, donc, qui est la chaîne de télé qui reprend les vidéos de Microsoft.
Et donc, Natalia, qui co-organise ça, me charge de dire qu'il y aura des goodies la prochaine fois. Donc, je transmets, j'en sais pas plus pour l'instant.
Très bien.
Ok, bah merci à tout le monde. Et donc, bah, un grand merci, Michael. On te réaccueillera.
Merci de m'avoir invité.
Voilà, bah, chaque fois que tu as migré un site un peu rigolo, viens nous voir, il nous raconte.
Avec plaisir. Je vous raconterai.
Ok. Parfait. Et bien, voilà pour aujourd'hui. Et à dans un mois.
Ouais,